Alors maintenant, on va passer à la Belgique, dont on sait bien qu'elle est régulièrement à l'origine d'initiatives françaises. Je le dis volontairement parce qu'on en a la preuve pour la Ligue de l'enseignement. C'est la Ligue belge qui a donné naissance à la Ligue française. Jean Massé s'est servi de l'expérience belge. Alors, qu'en est-il dans le domaine des bibliothèques populaires? Je passe la parole donc à Bruno Liezen de l'Université libre de Bruxelles, dont la création quasiment au même moment est tout un programme, puisque par rapport à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, les libéraux, c'est-à-dire à l'époque au sens propre, ceux qui ont la liberté comme drapeau, ceux qui revendiquent la liberté de penser, créent cette Université libre de Bruxelles qui demeure une des très grandes universités européennes.
Alors, pour comprendre l'évolution des bibliothèques populaires belges, même, on va dire, de toute institution culturelle en Belgique, il faut évoquer une caractéristique majeure de la société belge contemporaine, c'est en incluant la période du 19e jusqu'à pratiquement nos jours. C'est ce qu'on appelle la pilarisation, donc c'est un belgicisme. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est une organisation sociale, politique, culturelle qui englobe finalement tous les aspects de l'activité de la cité, de la société belge, autour de trois grands piliers qui correspondent aux grands courants idéologiques traditionnels qui se mettent en place ou préexistent pour les deux premiers. Il s'agit de, bien sûr, du pilier catholique d'une part, du pilier libéral d'autre part. Et puis le troisième, qui est plus jeune, c'est le pilier socialiste qui se développe dans les années 1880 en Belgique. Alors, ces trois piliers entretiennent des clivages, surtout sur deux axes. Tout d'abord, un axe philosophique, catholicisme versus laïcité. La laïcité étant défendue aussi bien par le mouvement libéral que par le mouvement socialiste, mais ces deux mouvements n'ayant jamais réussi jusqu'à nos jours à s'unir pour créer un véritable front de laïcs qui aurait été beaucoup plus puissant qu'il n'a pu l'être jusqu'à aujourd'hui face au courant catholique. Et puis l'axe politico-idéologique, bien sûr, socialisme versus capitalisme ou libéralisme économique. À ces axes vient bien sûr s'ajouter pour la Belgique le clivage communautaire linguistique qui en fait se fond dans ces trois piliers parce que le mouvement flamand qui est le mouvement revendicatif pour valoriser et développer la langue et la culture flamande dans un premier temps, ensuite plus tard, seulement dans le second temps, des revendications d'ordre politique ou autonomiste, eh bien, on retrouve les trois piliers. Il y a un mouvement flamand, libéral, catholique et plus tard, socialiste. L'important, c'est d'ajouter que chacun de ces piliers en fait développer non seulement un parti politique propre, mais aussi tout un réseau d'organisations qui relèvent de sa sphère d'influence. Alors ce sont des écoles, des universités, des syndicats, des mutuelles, des hôpitaux, des associations de toutes sortes. La Belgique, quand elle adopte sa constitution en 1831, a mis au fronton de cette constitution quatre libertés fondamentales, dont la liberté d'association. Donc il y a énormément d'associations, un tissu extrêmement dynamique. Tout cela va jouer un rôle important dans le développement des bibliothèques populaires. Le mouvement des bibliothèques populaires en Belgique s'inscrit très nettement dans une structure pilarisée. Alors ça se développe, mais cette fois, c'est la France qui prend l'initiative, puisque le mouvement des bibliothèques populaires, au sens strict du terme, je ne vais pas revenir sur les créations ou les prémices de ces bibliothèques antérieurement, mais c'est clairement les années 1860, comme en France, et plus spécialement une circulaire du ministre de l'Intérieur belge, datée du 13 septembre 1862, qui au fond ne va pas instituer une véritable intervention de l'État dans la question des bibliothèques populaires, mais simplement encourager le pouvoir communal, qui en Belgique a un poids important, qui a l'avantage d'être proche des citoyens. a créé et ou a encouragé lui-même la création de bibliothèques pour le peuple, sortant essentiellement les classes laborieuses, ouvriers, paysans, ce que d'aucuns appelleront aussi parfois avec une nuance de mépris, les petites gens. Cette circulaire est vraiment ce qu'on appellerait aujourd'hui un copier-coller de la circulaire de Gustave Roulant à laquelle M. Molière faisait allusion. Alors ce mouvement, bien sûr, va se constituer autour de chaque pilier. Du côté libéral, on a également mentionné la Ligue de l'enseignement. La Ligue de l'enseignement belge, effectivement, sera un groupe de pression très important pour stimuler les bibliothèques populaires libérales. Il y aura des textes, des enquêtes qui seront publiées pour donner les grands axes de développement de ces bibliothèques. Par la suite, plutôt vers la fin du 19e, la Ligue d'enseignement va même instituer un service de bibliothèque circulante, tout à fait moderne pour les normes de l'époque. Il y a aussi en Flandre le Willemsfonds, qui lui a une action uniquement sur le territoire flamand. Et la Ligue d'enseignement, elle avait une ambition nationale. Mais finalement, les deux vont s'associer pour pénétrer davantage les régions flamandes, qui sont quand même aussi un bastion de l'Église catholique. À Liège, on a la Société Franklin, en mémoire à Benjamin Franklin. Ce sont toutes des choses qui ont des échos en France également. Qui aura également un rôle, comme disait Noé Richter, de société de propagande, donc pour stimuler et créer indirectement des institutions de lecture. Bien sûr, ces sociétés, très naturellement, se développent essentiellement dans les régions industrialisées de la Belgique, Liège, Charleroi, notamment avec les charbonnages, les aciéries, aussi dans les régions de l'industrie textile assez développée, par exemple à Gand ou à Verviers à l'époque. On a par exemple des sociétés qui sont créées par des industriels philanthropes, comme un peu partout, mais aussi par des cadres d'entreprise, par exemple les charbonnages Marimont et Bascou dans le Hainaut. Les ingénieurs de ce charbonnage instituent une bibliothèque pour les travailleurs des mines. On a également des sociétés d'ouvriers, et notamment une société des Amis de l'Instruction qui a été fondée en 1879 par 25 ouvriers, donc là aussi une influence. Probablement une société sœur de votre propre association, même si au niveau des archives, on n'a jamais retrouvé de traces de connexion concrète entre ces deux associations. Alors, par rapport à cette effervescence libérale, on aura alors une réaction catholique. Les catholiques avaient déjà un certain nombre de bibliothèques qui existaient déjà au début du 19e siècle. C'est les bibliothèques catholiques du 19e siècle. Ce sont souvent appelées bibliothèques choisies, bibliothèques catholiques, rarement bibliothèques populaires. Et en fait, on se rend compte qu'elles avaient souvent une section payante qui en réalité était destinée au public des paroissiens bourgeois, classe moyenne essentiellement. Et elles ont souvent eu du mal à créer une section populaire gratuite, destiné alors aux gens du peuple. Donc il y a parfois une ambiguïté, on est devant parfois des institutions dont on ne voit pas très bien quel public elles visent exactement. Et en tout cas, il y a souvent une ségrégation entre ces deux publics. Alors bien sûr, ici, il y a une réaction parce que toutes ces bibliothèques paroissiales ou de congrégations sont très dispersées. Donc les catholiques, face à la menace du poison libéral qui se répand de plus en plus dans leur contrée, vont créer elles-mêmes des bibliothèques dans le but de recristianiser ou d'arracher aux démons toutes ces âmes en perdition. Il y aura une création de bibliothèques, de sociétés d'encouragement qui sont en fait calquées sur le modèle des associations libérales. Par exemple, au Willemsfonds libéral flamand, les catholiques vont répliquer avec un Davidsfonds qui utilisera les mêmes moyens d'action, mais évidemment avec un contenu relativement différents. On se rend compte que sur certains points, ces bibliothèques se ressemblent. Elles veulent arracher tout l'ouvrier aux distractions, à l'alcoolisme, à tout ce qui peut les perdre moralement ou intellectuellement. Enfin, le pilier socialiste qui se développe donc essentiellement après 1885 avec la création du Parti ouvrier belge, qui changera plus tard de nom et deviendra le Parti socialiste belge. Alors ce parti en fait a aspiré lors de sa création toute cette génération de jeunes libéraux, selon l'expression, des libéraux radicaux, progressistes, qui au sein du mouvement libéral étaient ceux-là même qui avaient initié toutes ces sociétés d'éducation populaire. Donc on va retrouver au sein du pilier socialiste exactement les mêmes techniques, les mêmes méthodes qui étaient initiées par le mouvement libéral. Donc on a un double effet, on va dire, de miroir, tant de la part du pilier catholique que du pilier socialiste. Par la suite, les socialistes vont évoluer dans ce domaine, dans ce sens qu'ils vont, surtout après, dans les années 1910, commencer à repenser la bibliothèque populaire pour en faire plutôt des bibliothèques ouvrières, des bibliothèques destinées à former les militants, à créer une élite ouvrière qui peut remplacer l'élite d'origine des grands bourgeois, des intellectuels libéraux à l'origine. Et donc, cette structure en trois piliers va en fait avoir pour effet de donner au modèle des bibliothèques populaires une pérennité jusque pratiquement dans les années 1970. Malgré la loi sur la bibliothèque publique de 1921, en effet, ce modèle de petite bibliothèque marquée idéologiquement va rester très vivace et on aura beaucoup de mal à réformer ce mouvement des bibliothèques pour créer un véritable service public de lecture neutre et pluraliste comme nous le connaissons heureusement de nos jours.